Bonjour Elie Tenenbaum.
Bonjour Franck Harrison.
Le 11 septembre 2001, c'est le point de départ de la guerre globale contre le terrorisme. Cette guerre de 20 ans connaît son apogée avec la chute du califat, du groupe État islamique. Les groupes terroristes n'ont-ils jamais su, en fait, passer de la guérilla à la gouvernance?
Alors ils ont tenté de le faire et ça reste un objectif assumé et dans leurs écrits et dans leurs expériences politiques. Ils ont essayé de le faire, on s'en souvient évidemment en zone syro-irakienne, au moment du califat territorial, mais ils ont essayé également au nord du Mali en 2012 et ils l'ont fait de manière moins connue, par exemple dans la région du Borno au Nigeria ou chez les Chebab en Somalie. Ils n'ont pas pu le faire à la fois du fait de contraintes extérieures. C'est-à-dire que depuis 2001, la communauté internationale s'est engagée à ne pas laisser se développer un nouveau sanctuaire. Et en même temps, de façon beaucoup plus interne, ils ont montré aussi leur sectarisme, leur incapacité à créer des formes de compromis durables auprès des sociétés. Et finalement, là où ils peuvent être très pragmatiques dans leur phase de guérilla, ils s'avèrent souvent trop intransigeants dans leur phase de gouvernance et sont emportés par leur succès. Donc il y a aussi un échec intrinsèque du djihadisme dans les territoires où ils ont pu gouverner pendant quelques temps.
L'Afrique est-elle en passe de devenir le nouvel épicentre du djihadisme?
Les djihadistes sont des acteurs opportunistes qui cherchent à se développer dans les zones de moindre pression, un petit peu à l'instar des groupes criminels. Et de ce point de vue-là, l'Afrique est apparue très tôt, dans les années 2000, comme un espace intéressant, lacunaire sur le plan sécuritaire. C'est comme ça qu'un groupe comme le JSPC, qui est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique, s'était installé dans le nord du Mali, précisément parce que la pression sécuritaire était moins forte qu'en Algérie, d'où il était originaire. Pour autant, il y a aussi une mise en résonance avec des sociétés africaines en transformation, en pleine explosion démographique, avec de l'instabilité économique et politique forte. Et donc, les djihadistes y voient un intérêt pour surfer sur cette vague-là. Et donc, effectivement, même si c'est des cas très différents au Mozambique, en Afrique centrale, en bande sahélo-saharienne, au Nigeria ou en Somalie, à chaque fois, on sent que c'est l'absence d'alternance politique, l'absence de perspective ou de projet qui fait que les djihadistes, à un moment ou à un autre, arrivent à placer leur offre avec une provocation, avec une violence, mais la réponse, qui est apportée par les États est parfois pire que le mal et contribue aussi à enrichir cette spirale de la violence qui est amorcée par les djihadistes.
Le Sahel est un Afghanistan français?
La question est évidemment complexe et dit comme ça est un peu provocatrice. Je pense que le théâtre est quand même un petit peu différent dans la mesure où jusqu'à présent au Sahel, ce sont quand même des groupes issus de minorités ethniques aujourd'hui qui constituent le cœur du réservoir de recrutement des djihadistes, que ce soit les Touaregs ou les Peuls évidemment. Alors que en Afghanistan, en fait, on avait un mouvement djihadiste qui était ancré dans les groupes majoritaires, notamment chez les Pachtounes. Et de ce point de vue-là, c'est une nouvelle relativement rassurante de se dire que aujourd'hui, les djihadistes n'ont pas au Sahel les relais dans la majorité de la population. Et donc, évidemment, ils sont limités aussi dans leur capacité politique dans la région.
Elie Tenenbaum, est-on proche de l'épilogue de cette guerre de 20 ans? N'y a-t-il pas aujourd'hui pour l'Occident d'autres priorités stratégiques?
Alors c'est effectivement le postulat qu'on fait dans le livre, ou plutôt l'une des conclusions, qui est de dire que la lutte contre le terrorisme est loin de s'être achevée, mais en même temps la guerre contre le terrorisme dans la forme qu'on lui a connue après 2001 ne pourra pas continuer sous sa forme actuelle du fait de son poids financier et des autres défis qui sont les nôtres dans le champ de la sécurité et de la défense internationale, évidemment avec la montée de la Chine. Je pense évidemment à la Russie, à l'Iran, à la Turquie, qui représentent des enjeux d'une nature assez différente de celle du terrorisme. Et donc, ce qui fait que la lutte contre le terrorisme ne peut plus être l'alpha et l'oméga d'une politique étrangère et de sécurité nationale, dans la mesure où, encore une fois, on a une diversité d'enjeux. Donc nous, ce qu'on postule, c'est que la lutte contre le terrorisme va revenir, finalement, à ce qu'elle était peut-être davantage avant 2001, l'un des enjeux parmi d'autres de sécurité nationale, et pas forcément la clé de voûte de tout notre appareil.
La guerre de 20 ans est publiée chez Robert Laffont. Merci, Elie Tenenbaum.
Merci, Franck.